Donc c'est ça qu'on a regardé. Voilà les résultats moyens de ce que nous avons pu constater. Au bout de 9 semaines de classe, on avait relevé les cahiers tous les jours, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, dans nos 130 classes, pour voir ce qui avait été étudié de manière explicite. Pas les remarques qu'on avait faites de manière incidente à l'occasion d'une rencontre de tel ou tel mot, hein, mais celles qui étaient institutionnalisées. Et la moyenne, c'est que les gens avaient étudié en 9 semaines 11,4 correspondances graphèmes-phonèmes. Mais dans les classes qui avaient le tempo le plus lent, ils n'en avaient étudié que 6, alors que dans les classes qui avaient le tempo le plus rapide, ils en avaient étudié dans la même période 20. Donc vous voyez, un tempo du simple au triple sur le nombre de correspondances graphèmes-phonèmes étudiées. Ça, c'était un sujet sur lequel peut-être certains d'entre vous avaient déjà travaillé avec moi au début des années 2010, quand on avait regardé comment fonctionnait un nouveau manuel qui sortait à ce moment-là, qui s'appelait « À l'école des albums », et qui avait comme particularité, c'est de proposer une étude du code qui était sur un tempo deux fois plus rapide que les manuels classiques, qui était un tempo d'ailleurs qui se rapprochait des méthodes syllabiques strictes, qui vont bien plus vite dans l'ensemble que les méthodes phoniques classiques. Bien plus vite, autour de cette idée, c'est que pour que les enfants soient motivés, il faut faire marcher la combinatoire. Et pour faire marcher la combinatoire, il faut plusieurs éléments de base à emboîter les uns avec les autres. Les gamins, avec le Lego, s'ils ont que 4 briques, ils s'ennuient très très vite pour fabriquer une maison. Pour faire une maison, ils ont besoin de plein de briques pour pouvoir les agencer de manière à ce que ça ressemble à une maison. La métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez, sur la combinatoire, c'est un petit peu pareil. C'est pour se lancer dans une activité de déchiffrage, il faut avoir suffisamment de briques pour que le déchiffrage fonctionne. Alors bien sûr, vous pouvez le contraindre en ne faisant déchiffrer que des mots qui soient 100% déchiffrables, mais si vous vous émancipez un petit peu, il faut très vite plus de briques. Les maîtres avaient une intuition qui s'avère fausse sur le plan de nos résultats, c'était que plus leurs élèves étaient en difficulté, plus il fallait qu'ils aillent lentement. Que c'était plus respectueux des élèves faibles que d'aller doucement. Là, nos résultats, ils sont très clairs, c'est contre-intuitif. C'est le contraire. C'est quand les élèves sont faibles, il faut que le tempo soit quand même suffisamment soutenu pour que les enfants soient confrontés à des situations de décodage qui soient stimulantes et réussies. Les deux. Réussi parce que le matériau qu'on leur donne à déchiffrer est suffisamment déchiffrable. Donc on a les deux critères. Il y a suffisamment de règles de correspondance connues, et ces règles permettent de déchiffrer à peu près totalement les mots qu'on propose. En d'autres termes, sur cette première distribution qui était une distribution sur les tempos, les maîtres qui avaient un tempo trop lent, du type 6, 7 ou 8 correspondances graphèmes-phonèmes au cours des 9 premières semaines, pénalisaient les élèves faibles, très nettement. Et c'était les classes qui avaient le tempo le plus rapide à partir de 14 correspondances graphèmes-phonèmes qui étaient les plus efficaces auprès des élèves initialement les plus faibles. Donc là, premier indice sur non, toutes les planifications de l'étude de code ne se valent pas. Évidemment, ça ne nous suffisait pas, ça. Parce qu'on se dit, il y a la planification de l'étude du code. OK. Mais quelle correspondance graphème-phonème choisit-on? On peut choisir des correspondances. Si on en étudie 10, on peut en étudier 10 qui sont très fréquentes en français, et ça fera plein de choses déchiffrables, ou 10 qui sont très rares en français, et elles ne nous donneront pas grand-chose à déchiffrer. OK? Donc vous voyez, deux critères. Premier critère, le tempo, la vitesse d'avancée. Deuxième critère, la fréquence des correspondances graphèmes-phonèmes. La bonne nouvelle, c'est que vous allez repartir de cette conférence avec un tableau des fréquences rangé et à votre disposition pour interroger vos outils. Fruit de la recherche. Troisième critère, mais le texte que je leur donne à lire, quel est-il? Tout à l'heure, vous étiez un peu effarouché sur cet appât de la pêche, etc. Mais vous aviez compris que le critère que les auteurs avaient retenu, ce n'était pas l'intérêt de l'histoire, ni la familiarité du vocabulaire, c'était le fait qu'il soit déchiffrable. Mais de l'autre côté, balayons devant notre porte, ceux qui mettent en avant très fort l'intérêt de l'histoire ont-ils réfléchi à l'expérience intellectuelle qu'ils soumettent à leurs élèves quand ils leur disent « vas-y, essaye, lis » qu'ils ont étudié, par exemple, dans ce manuel-là, 13 correspondances graphèmes-phonèmes. Donc on relevait toutes les semaines les correspondances graphèmes-phonèmes qui avaient été étudiées. Donc le graphème Y qui faisait I, le I qui faisait I, le A qui faisait A, le E qui faisait E, etc., avaient été étudiés. Et à côté, vous voyez le numéro de la semaine, étudié en semaine 3, semaine 4, semaine 5. Voilà. On a des relevés comme ça de qui étudie quoi à quel moment. Et on arrive au début de la 10e semaine, on sort le texte qui est donné aux enfants et on projette dessus, ce texte s'appelait « Quel bazar chez Zoé », ce que les enfants avaient étudié. Les enfants avaient étudié ça. Voilà, ça va, vous avez compris ? Donc là, le taux, on l'a calculé, c'est, ça donne 42% de graphèmes présents dans ce texte ont été préalablement étudiés. Alors on a fait les calculs et c'est clair que ce seuil-là est un seuil en dessous de ce qui est bénéfique aux élèves, pour pas dire que c'est un euphémisme, pour pas dire que c'est un seuil qui pénalise les élèves initialement faibles, parce que le texte est trop peu déchiffrable. Vous voyez, on retrouve le troisième critère, nombre de correspondances graphèmes étudiées, ordre dans lequel elles ont été étudiées, et choix du texte support, et la combinaison de ces trois critères vous donne un indice qui est un indice de déchiffrabilité. Et on a mis ça dans nos modèles mathématiques et on a montré que oui, les enfants étaient pénalisés, très clairement pénalisés, lorsque les textes étaient trop peu déchiffrables, en dessous de 30% avec ce mode de calcul, et qu'ils étaient favorisés lorsque les textes étaient au moins déchiffrables à 57%. 57% des graphèmes, c'est un mode de calcul qui ne tient pas compte du fait qu'il pouvait y avoir des mots entiers. Ne fétichisons pas ces chiffres-là. Gardons le principe. Le principe, il faut que les textes soient suffisamment déchiffrables. Je vais pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Avant, je fais juste un petit zoom, juste pour vous dire que des chercheurs, actuellement, ont fait des propositions de planification jugées rationnelles, ma collègue Liliane Springer-Cherol en particulier. Donc je vous ai mis dans le diaporama, vous l'aurez aussi, la planification qu'elle propose et qui a été publiée dans le livre de Stanislas Dehaene en 2011. En partant de critères qui sont des critères de fréquence, mais aussi des critères de facilité de discrimination pour les enfants, pour qu'ils étudient assez vite des choses qu'ils peuvent réussir à identifier et à discriminer, comme vous l'avez si justement dit tout à l'heure. Alors au passage, cette planification, la voilà, donc dans les premières semaines, voilà ce que Liliane Springer-Cherol propose d'étudier. Au passage, il y a de nombreuses lettres muettes qui sont explicitement enseignées comme des choses à identifier, ce qui est rarement le cas dans nos manuels. Et quand on les a comparées à ce que vous faisiez ordinairement, quand je dis vous, je reparle des 130 mètres que nous avons étudiés, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de points communs. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les planifications que vous étudiez, dans l'ordre dans lequel vous étudiez, sont très raisonnables. Il n'y a pas à bouleverser ça, c'est des années d'expérience qui vous ont amené, de manuel en manuel, à toujours retravailler à peu près les mêmes correspondances graphèmes-phonèmes, dans le même ordre, au même moment, et en gros, vous avez raison. Je dis vous avez raison collectivement, même si dans quelques classes, il y a des trucs qui sont quand même très surprenants, en étudiant des correspondances rarissimes et qui, en tout cas, ne génèrent quand même très peu d'occurrences de déchiffrage. Ça peut justifier parce qu'il y a un personnage qui a un nom très singulier et qu'on apprend à le déchiffrer. Mais lorsque ça se cumule, ça peut devenir contestable dans les choix de planification. Donc, vous aurez des outils qui vous permettront de comparer. Je vous ai mis une synthèse de ça. Quand on regarde, là, c'est ça le tableau, c'est le tableau des fréquences théoriques en pourcentage. Ils sont classés du plus fréquent. En français, la paire la plus fréquente, c'est la paire constituée par la lettre R qui fait le son R. La lettre A, et c'est différents signes diacritiques, qui fait le son A. la lettre E qui est muette, la lettre I qui fait I, la lettre T qui fait E, etc. Voilà les mécanismes les plus génératifs. Et si on regarde celles qui sont proposées par Jérôme Rioux, Jérôme Rioux, lui, propose une planification qui soit purement basée sur les fréquences. Liliane Springer-Sherold combine les fréquences et d'autres éléments psycholinguistiques, mais leur degré d'accord est fort. Regardez, sur les 19, ils sont 100% raccord. C'est après que Springer-Sherold introduit des éléments qui sont un peu moins fréquents que d'autres. C'est dire que ce n'est pas une science exacte et qu'il n'y a pas de raison de se tenir trop étroitement à ça, mais ça donne quand même de solides points de repère.